Votre radio Fréquencier organise le 2 et 3 avril les 72 heures du livre en partenariat avec la mairie de Ciel-le-Guillaume, la Plume de Léonie et les auteurs du Maine-et-Loire. Au programme, dédicaces, tables rondes, animations et interviews avec les auteurs. Venez nous rejoindre au centre culturel Maurice Thermot de Ciel-le-Guillaume de 10h à 18h. L'entrée est libre et gratuite.
Bonjour à tous et bienvenue sur les 72 heures du livre depuis Ciel-le-Guillaume. C'est la première des 6 tables rondes avec pour thème aujourd'hui autobiographie et tranche de vie, écrire sur soi et ou pour soi. Et sur notre plateau, eh bien, Paul Valin, hein, qui a bourlingué avec les armées françaises et qui a témoigné sous différentes formes à partir de son vécu. Myriam Audouin, qui a écrit son premier livre pour évoquer l'adoption. Gérard Ligaud, secrétaire de l'Association des écrivains du Maine et du Loire, qui a témoigné sur la maladie qu'il a touchée à l'âge adulte. Et je précise bien adulte parce que nous avons aussi Manon Thirault, 17 ans, qui a écrit à 15 ans sur un cancer contre lequel elle a lutté entre 2 ans et 12 ans. Nous avons également Séverine Lesage qui nous rejoint sur ce plateau avec un quotidien chez les primates et du sous-titre qu'elle va nous expliquer juste après. Et on excuse Elisabeth Forgot qui, comme d'autres écrivains, ont été touchés par des problèmes de maladie. Hein, on est dans une mauvaise période et on lui souhaite évidemment le meilleur rétablissement le plus vite possible. Alors, la question qu'on va évoquer ici, c'est... En quoi on peut dire que notre vécu nous a inspiré le désir ou le besoin, je ne sais pas lequel, le désir ou le besoin d'écrire. On va faire un petit tour dans un premier temps et on va commencer par celle qui n'est pas la moins stressée sur cette table. C'est Manon. Manon, alors, pourquoi est-ce que tu as décidé à 15 ans de raconter ce qui t'était arrivé entre 2 et 12 ans ? Raconte-nous.
Eh ben, j'ai décidé d'écrire pour raconter mon histoire, la raconter aux autres, avoir moi-même, pour moi, une preuve écrite de mon histoire, pour surtout porter espoir aux personnes malades et ceux qui ont également une personne malade dans leur entourage, pour porter espoir et donner beaucoup de courage à ces personnes qui se battent.
Alors, c'était quoi ce vécu ? Dis-nous en quelques mots ce que tu as traduit par justement la plume sur ce livre, Un écrin de tendresse. D'ailleurs, je n'ai pas donné tout le titre.
Eh bien, je raconte la maladie, le diagnostic jusqu'à ma guérison, en passant par l'opération difficile que j'ai eue, la chimio. Je raconte également aussi les relations difficiles avec mon papa suite à la maladie et puis l'avenir que je prévois dans mon livre.
Hier, tu as rencontré des élèves de 6e à Conly. Qu'est-ce que tu crois que tu leur as apporté ? Qu'est-ce qu'eux t'ont dit de la lecture qu'ils avaient eue de ton livre ? Est-ce que forcément, vous avez une différence d'âge qui n'est pas énorme ?
Eh bien, ils ont retenu une bonne leçon de vie. Ça leur a beaucoup touché. Et ils étaient très contents de me rencontrer et d'échanger avec moi hier.
Touché, on peut dire. Hein. Mm. Hein, ils ont dit que c'était touchant. On reviendra vers toi, Manon, tout à l'heure. On va continuer avec Gérard Ligaud, puisque finalement, l'inspiration, la source d'inspiration est un peu la même.
Exactement. Exactement. Je raconte l'évolution de ma rééducation suite à mon AVC, mais sur les 6-7 premières années, puisque avec cet AVC, j'ai eu 3 semaines de coma et sorti tétraplégique. Donc il y a un parcours de combattant très, très impressionnant, puisque j'étais 9 mois sans pouvoir marcher. Et lorsque j'ai commencé à remarcher, je faisais 30 kilos de moins. Mais c'est mon passé sportif qui m'a aidé à vaincre, on va dire, pour moi, un fléau.
En quoi le passé sportif ?
Je faisais du décathlon et du foot. Décathlon au niveau international et foot au niveau, si on regarde par rapport à, comment dire... Ça correspond à National 2.
Ah oui, d'accord. Et donc, pourquoi est-ce que vous êtes mis à écrire à un moment
Je me suis mis à écrire parce que j'avais raconté mon parcours à deux personnes qui se faisaient soigner pour l'alcoolémie et différentes drogues interdites. Et ils m'ont dit, il faut le mettre noir sur blanc parce que nous, ça nous a convaincus d'arrêter cette merde.
Et même chose, vous avez rencontré des personnes qui ont lu votre livre
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous en disent en général ?
En général, j'ai pas une statistique exacte. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont lu ce livre.
Ah oui, ce qui est important, oui.
Voilà. Et beaucoup de médecins me demandent des conseils.
D'accord. Des médecins.
Des médecins. Parce que les médecins traitent le sujet, mais ne connaissent pas
ce qui se passe à l'intérieur.
Ce qui se passe en différé. Parce que vous avez les conséquences physiques, oui, morales, personnelles, professionnelle, financière et matérielle. Là, je l'aborde sur tous les sujets.
Et vous, ça vous a servi d'écrire ?
Oui.
Ça vous a apporté quelque chose ?
Bon, ça m'a permis de survivre. On va dire, c'est un objectif.
À ce point-là ?
Ouais. C'est, on va dire que l'écriture est une façon
de... C'est une méthode de soin ?
C'est une méthode de soin. Et avec ce livre, il y a eu un engrenage d'écriture. Je ne me suis pas arrêté à ce livre. J'avais des passés de poésie, donc j'ai concrétisé. J'avais des idées d'écriture polar et roman d'aventure. Et c'est parti.
Le plaisir des mots.
Le plaisir des mots.
On y reviendra peut-être tout à l'heure. On va continuer avec Myriam Audouin. Donc vous, c'est quelque chose d'un peu différent, mais c'est vraiment du vécu que vous avez évoqué aussi par l'écriture dans votre livre.
Oui, oui, c'est un combat tout autre, celui de vouloir devenir parent. Oui, c'est un vrai combat. Pour nous, ça a duré 9 ans. Mon livre, lui, raconte que les 3 dernières années, parce que je n'ai commencé à écrire qu'à ce moment-là. En fait. Donc je voulais que le livre soit authentique et qu'il traduise vraiment les moments par lesquels on passe, que ce soit les bons ou les mauvais.
Alors pourquoi les 3 dernières années, pas les
Parce qu'avant, les j'écrivais, je n'écrivais pas sur le sujet. Ça m'est venu petit à petit. En fait, autour de nous, on nous posait toujours les mêmes questions, vous en êtes où, etc. Donc je faisais des petits mails groupés et j'ai commencé à romancer, c'est authentique,
mais ça, à raconter. C'est une question qu'on va se poser tout à l'heure.
En y mettant une petite prose, de l'humour, des choses, en traduisant toutes les... Et j'envoyais ça aux proches, et puis j'avais des bons retours, quoi. C'est eux qui m'ont encouragé en me disant, mais tu devrais écrire un livre, parce que vraiment...
Alors l'écrire pourquoi ? Parce qu'ils sentaient que ça pouvait être utile à d'autres ?
Exactement. Moi, c'était un petit peu pour ça. Enfin, moi, il y avait deux buts. C'était d'abord que ça serve aux autres parents qui voulaient se lancer dans l'adoption. Et puis aussi pour ma fille que j'ai adoptée, donc du coup, pour qu'elle puisse le lire un jour. C'était mon but initial.
Mais un peu comme on classe des photos.
Oui, c'est
pourquoi
ça.
Pourquoi pas ne pas classer ça par des mots.
Mais finalement, je l'ai beaucoup, beaucoup vendu à des, tout simplement des mamans. Parce que les mamans se retrouvent dans ce livre, cette envie d'être maman, cette envie de... Voilà.
Vous nous raconterez ça un petit peu en détail tout à l'heure. Je vais me tourner maintenant vers Séverine Lesage. C'est la vie de couple qui a inspiré l'écriture. Alors, c'est venu comment, cette idée d'écrire sur cette histoire personnelle ?
J'étais pas partie sur l'écriture autobiographique dans un premier temps. En fait, la situation et les situations que j'ai vécues. Et j'ai trouvé une façon humoristique de les raconter. Donc, c'est parti d'une anecdote et puis un livre a suivi sur une comparaison avec le bonobo. Voilà.
Alors pourquoi les bonobos ?
Parce que en fait, ils possèdent plusieurs traits psychologiques dont pourraient s'inspirer pas mal d'hommes, on va dire. Donc je suis partie sur ce parallèle-là, ce qui m'a fait beaucoup rire. Donc en fait, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. même si c'est une partie autobiographique, c'est pas toute ma vie, c'est une partie en fait.
Ouais.
Voilà, donc on peut dire que c'est peut-être un manuel pour les couples en désaccord, quelque part. Mais je me suis beaucoup amusée, c'est vraiment...
Bon, on viendra aussi en détail sur l'histoire. Alors j'ai évidemment, je vais donner la parole en dernier pour l'instant sur ce premier tour à Paul Valin, parce que Paul Valin, il a évidemment un vécu qui date déjà de pas mal de temps. Vous avez quel âge, Paul Valin ?
Est-ce que je dois le dire ? Disons que j'ai dépassé les 80 largement. 88.
Ah oui, voilà. Et Paul Valin, donc lui, il a écrit pas mal de livres à partir de son vécu, en fait, du côté de l'armée française. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire un bouquin sur sur la guerre d'Indochine. Et à un moment, je me suis posé la question, mais qui c'est qui parle ? Qui est dedans ? Est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il fait parler quelqu'un d'autre ? Il y avait cette ambiguïté. Ça s'est clarifié seulement pour moi à la fin du livre. En gros, déjà, Paul Valin, dites-nous qui vous êtes. Attention, on en a pour... Non, il faut qu'on tienne la demi-heure. Paul Valin, alors qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez comme racines dans votre vie qui vous ont amené à écrire autour de ce thème de l'armée, des guerres coloniales?
Je crois que je suis un morceau d'histoire de France. Modestement, je vous le dis. J'ai vécu quelques guerres. J'ai été soldat pendant plus de 40 ans. C'est vous dire que je suis allé partout où notre République estimait avoir son mot à dire. Mais commençons par le commencement. Donc je suis né en 1934, pour ne pas vous cacher. Et je suis né dans le Nord. Ce qui fait qu'en 1940, j'étais aux premières loges. J'ai donc fait l'exode. J'étais élevé par mes grands-parents. Mes parents étaient très jeunes, mon père était mobilisé, donc parti, et j'étais élevé par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc en 1940, je fais l'exode dans la brouette de mon grand-père. En voyant défiler devant nous tous les réfugiés de Belgique en particulier, eh ben, on a suivi la foule et mon grand-père tenant sa brouette et moi dedans, il y a quelques ballots, et ma grand-mère qui pesait 120 kilos, hein, on est parti donc sur les routes. J'ai assisté à des scènes extraordinaires, des balais aériens le soir, des avions qui se poursuivaient, des lumières qui scintillaient comme les étoiles, et puis boum, d'un seul coup, une grosse lumière qui descendait vers le sol. Pour moi,
est-ce que je peux vous arrêter une seconde, Paul Valin, pour dire que c'est ce que vivent aujourd'hui des Ukrainiens, malheureusement.
Affirmatif, donc je les comprends très bien. Bon, mon grand-père, au bout de quelques jours, s'est dit, mais c'est complètement cinglé, où est-ce qu'on va aller ? Donc on a fait demi-tour, on est revenu dans le village, d'où on avait vu partir les Anglais d'ailleurs, et on a vu arriver les Verts-de-Gris. Bon. À partir de là, a commencé la guerre. Ma mère est venue me chercher. Mon père était passé avec son régiment en zone non occupée. Vous savez que la France était coupée en deux par une démarcation. Donc, lui, il était de l'autre côté avec ma mère. Et ma mère est venue me chercher en 1941. Ce qui fait qu'on a pris le train, c'était le train de Vichy. Chaque semaine, le Vichy envoyait ses parlementaires, je dirais, à Paris pour discuter avec les Allemands. Mon père était dans l'organisation de l'armée secrète, donc je ne sais pas trop comment ils avaient combiné leur affaire. Mais en arrivant à Paris, on a pris le train, bien sûr, de Douai à Paris. J'ai attendu très longtemps dans une salle d'attente pendant que ma mère allait, je ne sais où, dans les bureaux. Et puis... on a embarqué dans le train des ministres qui retournait sur Vichy. Et comme ma mère n'avait pas d'Ausweis, elle s'était arrangée avec les gens de la SNCF les gens, un des cheminots m'a pris par la main et a considéré que j'étais comme son fils, en quelque sorte. Ma mère, le train s'est arrêté avant Moulins. On est passé par Vierzon, mais je ne vous raconte pas combien on a attendu là-bas, parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des déraillements et autres. Bon, on est donc arrivé, et ma mère a été camouflée dans le tender de la locomotive. La SNCF avait déjà préparé donc des choses. Elle a donc franchi la ligne de démarcation camouflée, et moi, à côté d'un employé de la SNCF, quand à Moulins, les contrôleurs allemands sont venus passer, le contrôleur avait ma carte d'identité, il a montré ma carte d'identité. Comme c'était des soldats allemands qui ne parlaient pas français, qui contrôlaient, la photo leur suffisait simplement. Donc, j'ai passé comme ça, clandestinement, la ligne de démarcation avec ma mère.
Est-ce qu'on peut se rapprocher petit à petit de la période où vous vous retrouvez dans l'armée, finalement ?
D'accord. Bon. Alors là, je vais vieillir un peu. Hein. Là, c'est pas gentil. Hein. Bon. À 13 ans, je deviens enfant de troupe. À l'école du Mans, à l'EMPT du Mans, l'école militaire préparatoire technique du Mans. Et là, c'est un collège militaire, donc, qui fait les études, comme tout collège, mais avec un encadrement militaire, autant vous dire qu'on rigolait pas et que l'ordre était respecté. Ça ne discute... C'était des professeurs civils qui nous faisaient des gens de l'éducation nationale, qui nous enseignaient les mathématiques, la philosophie et tout le reste qui va avec. Bon... J'étais un élève moyen, mais enfin, bon, j'ai passé, comme tout le monde, les brevets et autre chose. À 18 ans, je m'engage. J'en profite parce que, étant enfant de troupe, j'ai quand même réussi à faire des choses extraordinaires. Du vol à voile au club du Mans, hein, à l'aéroport du Mans. Je faisais du vol à voile, c'était extraordinaire, hein, une fois par semaine. Hein. Puis le dimanche, on allait promener à pied vers les bords de Sarthe et je ne sais
pas. On a le sens du détail. Hein.
Mais c'est des bons souvenirs. Hein. Et puis il y avait une camaraderie un peu brutale parfois, parce qu'il fallait régler ses comptes. Hein. Mais ça se passait bien. Donc à 18 ans, je m'engage. Je rejoins une école de sous-officiers. Je deviens sous-officier. On me forme comme spécialiste radar. Donc j'acquiers de bonnes connaissances techniques et je deviens radariste en quelque sorte. Et après, bon, sous-officier, je rejoins un régiment en Allemagne, un régiment d'artillerie antiaérienne, et les soirées étant longues, je poursuis des études tranquillement, je m'inscris à des cours et je prépare l'école d'officier. Je fais Saint-Cyr, j'entre à Saint-Cyr, j'en sors en 1960, je rejoins l'Algérie comme sous-lieutenant. On me confie le commandement d'un poste à la frontière marocaine, PK-612, un beau poste, point kilométrique à 612 km d'Oran. Donc, c'est vous dire, j'étais en plein Sahara, au milieu des cailloux. Devant moi, il y avait l'Atlas, c'était magnifique. Les vents de sable, vous avez pu en profiter, je pense, ces
derniers jours. Absolument, absolument.
Et c'est magnifique, un vent de sable, quand ça arrive, c'est tout un horizon qui vous tombe sur la gueule, sur
on
la
a compris.
Figure, et qui arrive comme ça. Et autant vous dire, vous avez intérêt à aller vous camoufler, à mettre le chèche et tout, parce qu'on respire du sable pendant 48 heures.
Alors je vous arrête un moment, on sent là tout le vécu. C'est-à-dire, vous avez l'image, l'anecdote, on ressent, enfin, on a tout ça. Alors, on va avancer un petit peu, on va aller directement vers l'Indochine, si vous le voulez bien.
Affirmatif,
hein,
oui.
Hein, voyez-le, affirmatif. Hein. On voit que l'armée est là. Hein. Donc, on va aller vers l'Indochine. Je vais prendre le cas de votre livre ici, hein, sur donc, des partisans d'un peuple du cœur, enfin, de cette Indochine.
Les Moïs.
Hein, dans la guerre française, vous le précisez, d'Indochine. Alors, dans ce livre-là, vous faites parler des personnages, vous mettez en scène des personnages. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces personnages ?
Le cœur d'abord, le cœur, les tripes. ce livre, c'est un récit qui plonge dans l'histoire de l'Indochine française de 1940 à 1954. Le conteur est un homme de l'ombre qui s'efface volontairement derrière le sujet afin de lui laisser la place d'honneur dans l'histoire, en quelque sorte. Les faits rapportés, les lieux cités, les personnages évoqués sont réels. La résistance indochinoise à l'invasion japonaise, à la pénétration chinoise, aux prétentions anglaises et américaines d'évincer la présence française en Indochine, l'opposition à la rébellion, puis à la lutte armée du Viet Minh, tout ça sont une page d'histoire oubliée que j'ai racontée parce que je l'ai fréquentée de près.
Alors,
les Moy, parlons-en voilà, des Moy. Les Moy, c'est une peuplade des montagnes de l'Annam, du centre Annam. Ce sont des montagnards, comme les Thaï, comme les Hmong, comme différentes peuplades indochinoises de cette région. Des gens qui vivent libres et qui n'entendent pas se faire imposer des lois par qui que ce soit la France, que ce soit le Viet Minh.
Et vous avez rencontré ces peuplades ?
Affirmatif.
Voilà, affirmatif. Je vais vous faire une confidence tout de suite, Paul Valin. Moi, je suis de formation en prof d'histoire, hein, et j'ai appris plein de choses avec votre livre, parce que c'est vrai que sur la guerre d'Indochine, il y a plein d'aspects. Vous le traitez de l'intérieur, en quelque sorte. Il y a plein d'aspects comme ça qui ne sont pas communiqués. Et on apprend énormément. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, parce que sinon, on va avoir du mal à faire notre petite demi-heure.
Je voudrais dire que le plus grand écrivain sur l'Indochine, ce fut Lartégui. Je ne sais pas si les gens se souviennent de lui.
Jean Lartégui.
Les mercenaires, les prétoriens, les centurions sont des livres de Lartégui que je vous recommande parce que c'est toute l'âme de l'armée française qui est dans ces livres.
Voilà, et on sent aussi votre parti pris sur cette question de l'Indochine. C'est clair, il y a un positionnement, on va dire, politique aussi.
C'est une lâcheté politique d'avoir abandonné ces gens, comme ce fut une lâcheté d'avoir abandonné les Harkis en Algérie.
Donc,
c'est la même chose.
Donc des choses que vous avez vécues et également votre ressenti et votre opinion politique sur la question. On va revenir maintenant, on va aller vers Séverine Le Sage. Alors, vous n'avez pas fait l'Indochine, évidemment, Séverine Le Sage, c'est absolument impossible. Mais par contre, vous avez vécu des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus proches. Alors, racontez-nous un peu les circonstances que vous avez vécues et que vous traduisez dans votre livre.
Les circonstances.
Oui. Qu'est-ce qui... Voilà, les faits qu'on retrouve dedans.
Les faits qu'on retrouve dedans, c'est la vie de couple, en fait, de tout un chacun. C'est la vie qui passe, c'est les années qui passent avec les bons et les mauvais jours, en fait. Moi, je me suis amusée de ça pour traduire une situation qui à un moment donné me pesait, mais surtout me faisait me remettre en question sur la vie de couple. Et la vie en commun est difficile, elle n'est pas évidente.
Qu'est-ce que vous vouliez évoquer particulièrement par rapport à cette notion de vie de couple ?
Qu'est-ce que je voulais quoi ?
Qu'est-ce que vous vouliez évoquer particulièrement par rapport à cette question de vie de couple ? Parce qu'on sait que les vies de couple sont parfois simples ou parfois compliquées. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en évidence ?
Ah, j'ai pas réfléchi à mettre quelque chose en évidence particulièrement. Moi, j'ai pris des situations que j'ai tournées en situation humoristique, mais ce sont des situations qui sont vraies. Mais ça permet en fait de réfléchir sur que chaque jour est différent et qu'il faut faut faire attention à l'autre chaque jour et ne pas se laisser aller en fait à une vie quotidienne sans penser à l'autre. Donc c'est ce qui est le plus difficile dans une vie.
Et ça, on peut le dire pratiquement comme une espèce de conseiller psychologique, mais on peut le dire aussi par le biais de l'humour, c'est ça que vous voulez
complètement,
dire en fait.
Complètement, on peut le dire de mille et une façons. Oui, ça peut être pris comme ça, effectivement. Après, les retours que j'ai eus des femmes est différent de celui des hommes.
C'est des lectrices ou des lecteurs que vous avez ?
J'ai les deux, et les deux n'ont pas le même ressenti. Les hommes sont un peu frustrés, mais il ne faut pas, parce que je parle aussi des femmes, parce que... On met souvent un point d'honneur à matraquer les hommes sur leur façon d'être ou de vivre, mais la femme en est tout temps, il y a autant à dire. Donc c'est un peu des deux. C'est
vrai, c'est vraiment des deux. Un coup à gauche.
Voilà, donc c'est rigolo, oui.
Ça marche. On revient vers Gérard Ligaud. Alors Gérard Ligaud, vous avez raconté. Alors quand vous racontez comment? Chronologiquement ou par moment de sensation? Est-ce que c'est des moments vécus de façon plus intense que vous mettez le plus en valeur et d'autres moments que vous n'évoquez pas? Comment vous écrivez par rapport à cette retranscription d'un vécu?
La retransmission de ce vécu, je l'ai fait par bribes au départ, et à un moment donné, j'ai fait la chronologie. Parce que bon, ça me permettait en même temps de retrouver la mémoire.
Parce que, bon, vous aviez besoin de ça aussi.
J'avais besoin de ça, parce que ma première rééducation, ça n'a pas été la rééducation physique, ça a été la rééducation de la mémoire. Là, je lisais 3 livres par semaine. Pour pouvoir retrouver un semblant de vie.
Ah oui.
Voilà. Parce que les seuls mots que je savais dire, c'était ça. J'avais perdu quand même le sens de la vie.
Et ça, c'est une rééducation de combien de temps?
On ne peut pas le calculer. La rééducation, elle est continuelle. Par moment, j'ai des périodes...
Ça continue.
Par moment, j'ai des périodes d'aphasie.
Oui.
Parce que bon, j'ai quand même des séquelles invisibles, mais j'ai des périodes d'aphasie. Il y a des périodes où j'ai une partie de mon corps qui ne réagit plus, parce que bon, ça a été endommagé. Je compare l'AVC comme un tremblement de terre ou un tsunami. C'est le même effet physique que ces deux aspects de la nature. Le tsunami,
est-ce à dire qu'il pourrait y avoir à raconter une suite au finalement, parce que
oui,
là je passe d'autres choses après, voilà, après avoir écrit cela.
Après ce livre, bon, je pourrais écrire sur le suivi, mais ça serait trop long. Je serais toujours en train d'écrire sur le suivi, puisque.
Est-ce que vous prenez encore des notes aujourd'hui, éventuellement?
Non, c'est tout dans la tête.
Tout dans la tête.
Tout dans la tête. Je prends rarement des notes. En tant que secrétaire de l'association, je ne prends pratiquement jamais de notes. Dès l'instant où j'ai suivi un discours, je peux le retranscrire.
Donc ça a bien avancé, tout ça.
Voilà. Ah.
Et l'écriture a joué pour beaucoup?
Oui.
Quand je dis beaucoup, c'était capital, ou vous avez l'impression que vous n'en seriez pas là sans l'écriture?
L'écriture était, très utile. Déjà pour me repréparer, puisque j'étais dans la fonction publique, et pour repréparer des concours pour gravir les échelons, ce qui m'a permis de remettre le mécanisme en route.
Myriam Audouin, on revient vers vous. Donc là, c'est sur, vous l'avez dit tout à l'heure, 9 ans pour aller vers l'adoption. Vous avez raconté les 3 dernières années. Clairement, qu'est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous décrivez dans votre livre?
Tout.
Alors tout, donnez-nous des quelques détails dans l'intérieur de ce tout.
Tous les ressentis, toutes les portes qui se ferment, tous les coups qu'on se prend.
Alors c'est très drôle parce que vous commencez par les ressentis, alors qu'en général on pense plutôt aux faits d'abord et après les ressentis par rapport aux faits. Pourquoi vous commencez par dire les ressentis?
Parce que c'est ce qui ressort le plus, c'est ce qui ressort le plus du livre aussi. Après les faits, globalement les gens savent que c'est compliqué, savent qu'il y a de l'administratif, savent qu'il... Voilà,
donnez-nous quelques détails de cela, de cette démarche, de ces attentes, de ces doutes.
Et les premières phases, c'est évidemment de construire un dossier et de passer par la case administrative, et ça c'est pas rien. C'est compliqué, il y a les dates, les délais, les médecins, les psychologues, les assistantes sociales, etc., le conseil général. Et puis après, vous avez aussi tout le...
Vous ne vous sentez pas aidé ou...
On est accompagné, on ne peut pas dire qu'on n'est pas...
Mais les procédures sont trop compliquées.
Les procédures sont compliquées, comme pour beaucoup de choses, l'administratif.
Vous avez le sentiment à ce moment-là qu'on veut vous décourager?
En tout cas, qu'on ne nous encourage pas. Qu'on nous décourage, ce serait peut-être, le mot est peut-être un peu fort. Ouais. Mais on y va avec des pincettes quand même, parce que, c'est aussi des choses qui sont des risques. Adopter, c'est quelque chose qui peut fonctionner ou qui peut ne pas fonctionner. Donc c'est aussi normal qu'un conseil général soit frileux par rapport à ça. Et puis quand on innove, alors là, je ne vous dis pas quoi. Parce qu'au début, on était sur l'adoption d'un petit, et puis on a vieilli, on a mûri, et ensuite on s'est orienté sur un enfant plus grand. Et là, ça a été très très compliqué. Oui, très compliqué, parce que là, le Conseil Général, on était les premiers, on était...
Mais alors, votre histoire, c'est une histoire qui est particulière, ou alors c'est toutes les personnes qui sont dans cette situation de vouloir adopter traversent le même chemin de croix que vous ?
Il y a toute une partie où on s'y retrouve entre parents adoptants, puisque déjà les phases administratives, etc. Mais après, c'est vraiment une aventure unique. Moi, ça a duré 9 ans, il y en a d'autres, ça a duré 3 ans, enfin à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Mais il y en a où en 3 ans, ils ont adopté. Et ça dépend aussi de la chance qu'on peut avoir, parce que ça dépend aussi des politiques dans les pays. Vous orientez, nous, quand on s'est orienté sur l'Asie, il y a eu les portes qui se sont fermées. On a perdu 2 ans sur un agrément qui dure 5 ans. Oui. Il vous reste plus grand chose, hein. Ça va très très vite. C'est-à-dire que les temps d'adoption sont plutôt des délais de 6 ans et l'agrément, lui, il est de 5 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, il faut que vous refassiez un agrément.
Tout ça, on le retrouve finalement dans votre livre. Oui, donc, en fait, ça peut être un livre aussi pratique qui peut aider des gens qui se mettent dans la même situation que vous.
Il y a ça, puis après, il y a aussi notre aventure. C'est-à-dire qu'on est parti aussi 3 semaines en Ukraine. On s'est orienté dans un pays avec des normes qui sont encore très très compliqué. On est revenu bredouille au bout de 3 semaines, mais on est revenu.
Et finalement, vous avez adopté ?
Oui, oui, oui. On est parti on a été pris par une association et on a adopté en Afrique.
Donc, dans quel pays ?
Le Centrafrique. Centrafrique.
Et la relation ? Aujourd'hui,
ma fille a 18 ans. Oui, ça se passe bien. Les débuts ont été compliqués, mais c'est une adoption réussie.
Manon, parce qu'on va arriver au bout de la demi-heure. Manon, toi, tu as raconté quelque chose, tu es encore mineure, hein, donc c'est un petit peu particulier. J'ai envie de te demander comment dans ta famille on t'a aidé ou comment on a ressenti ce que tu voulais écrire.
Ça dépend des deux familles. J'ai côté paternel, on m'a beaucoup encouragée, beaucoup soutenue, on a cru en moi, on m'a aidée aussi, parce que ma grand-mère m'a aidée à écrire ce livre. Du côté maternel, c'était différent, ils avaient plutôt peur que je m'engage dans un truc que j'allais pas aller jusqu'au bout. Donc
Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas sur le début, il s'agit de raconter un cancer, hein, c'est ça, entre 2 ans et 12 ans. Et je rappelle que tu as 17 ans, que tu as écrit à 15 ans. Hein. Il faut rappeler ce détail qui est très important. On a presque les deux extrêmes sur le plateau de ce salon en termes d'âge entre Paul Valin et Manon. Oui, je te laisse continuer, oui, Manon, donc avec ta famille. Voilà.
Eh ben oui, c'était différent.
Ta grand-mère a joué un rôle important dans l'écriture ?
Oui, oui, beaucoup. Elle m'a aidée à écrire, on va dire, le début sur la maladie, comment ça s'est passé, parce que je ne m'en souviens pas du tout. Donc pour le début, elle m'a beaucoup aidée. Et puis pour les souvenirs qui me restaient, je me suis débrouillée toute seule.
Et quand on écrit à 15 ans, est-ce qu'on arrive à vendre son livre ?
Oui, oui, là, avec la maison d'édition, on en a imprimé 300. Et j'ai tout vendu les premiers 8 mois.
Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est auteur lu à 15 ans, quoi ? De la fierté
On n'y croit pas. On ne réalise pas encore. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de faire tout ça, la radio, la presse. On ne se rend pas compte.
Séverine Lesage, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on peut écrire à 15 ans comme ça ?
Ah, je trouve ça carrément... exceptionnel, quoi. C'est une superbe expérience et ça va lui servir pour après, effectivement. C'est un bel exemple. Et puis l'aventure d'une écriture, elle est toujours différente chaque jour, chaque fois. Donc oui, bravo, vraiment.
Voilà, c'est là-dessus qu'on va refermer ce tableau, parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps, parce que c'est ma montre qui ne marche toujours pas. Il y a Paul Valin qui est en train de se dire, c'est tout ce que j'ai pu dire, ça j'en suis sûr, je vois bien. Hein. Mais là, on a eu le plaisir de rencontrer finalement des témoignages autour de vie et de formes d'écriture qui en ont découlé. Nous avions donc sur ce plateau avec nous Gérard Ligaud, Myriam Audouin, Paul Valin, Manon Thirault, Séverine Lesage. Merci à vous d'être venus témoigner ici sur justement le témoignage à partir de son vécu ou l'incitation à l'écriture à partir de son vécu. Et je vous souhaite dans tous les cas un bon salon, de bonnes 72 heures du livre. Le prochain rendez-vous en radio, ce sera en début d'après-midi à 14h30 sur un thème autour de la photographie et de l'édition. Et vous retrouverez aussi, entre-temps, sur ce salon, les animations avec la plume de Léonie, tournée beaucoup autour de la poésie. Et pour cela, il faut aussi venir sur ce site. Vous pouvez nous entendre à la radio, mais c'est aussi bien de venir voir, parce que ce que vous entendez à la radio, vous pouvez aussi vous asseoir tranquillement sur les chaises devant et écouter la même chose et en même temps rencontrer les écrivains qui ne demandent que cela. Merci à vous et merci. On retrouve un plateau à 14h30 sur le même style. Merci.